France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Et si nous subissions cet été encore un épisode de sécheresse aiguë, déjà l'inquiétude est pour le nord ou l'est. Les premières restrictions ou vigilances sont émises en Loire-Atlantique, en Vendée, dans l'Ain, l'Ardèche, la Charente, l'Isère et d'autres. Il semble qu'on s'achemine vers un été aux températures au-dessus des normales de saison. Mais au fond, désormais, y a-t-il un normal? Nous savons que nous vivons, à l'échelle de l'Europe d'ailleurs, dans des régions où la demande en eau dépasse les ressources. Nous savons que les économies sont indispensables, elles le sont dès maintenant. Et nous interroge aussi ce qui fera d'ailleurs probablement une partie de notre débat ce soir. Peut-on, faut-il encourager une baisse de la consommation plutôt que l'approvisionnement et aussi le stockage? Comment éviter des conflits de l'eau qui se multiplient partout en France, autour des retenues, autour de pratiques, autour de la gestion de l'eau? Que faire? Quels sont les leviers? Des cultures moins assoiffées, des centrales énergétiques moins nombreuses ou moins gourmandes, une tarification de l'eau, des technologies plus efficaces, une agriculture moins irriguée, comment mieux partager, comment moins gâcher, ça nous parle à tous. Faut-il mieux stocker, comme le suggèrent certains agriculteurs, ou trouver d'autres solutions? Beaucoup de questions restent ouvertes. Comment, en tout cas, éviter ces conflits de l'eau? Soyez les bienvenus dans le téléphone sonne.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Mathieu, c'est vous le premier. On vous salue. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Allez-y.
Alors moi, c'était, on va dire, question, réflexion, proposition.
C'est un triptyque, allez-y.
Pourquoi est-ce que on ne favoriserait pas la mise en place de mesures qui permettraient d'utiliser, par exemple, les eaux pluviales à usage domestique, industriel, agricole, par exemple, pour le domestique, on va dire les toilettes, la vaisselle, tous ces trucs-là. Voilà. Proposition, on va dire, c'était plus pour sur la tarification. Mmh. Enfin, moi dans ma tête, l'idée de base, ça serait déjà pas de coût d'abonnement. Ensuite, un coût, les premiers mètres cubes gratuits, parce que l'eau potable, entre autres, est nécessaire pour vivre. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui réfléchissent deux fois avant de prendre une douche, on va dire. Et après, par contre, un coût exponentiel, prohibitif, au fur et à mesure qu'on consomme. Par exemple, si on veut remplir sa piscine ou laver sa voiture et tout ça. Et une dernière réflexion, c'était pourquoi si on n'aiderait pas, par exemple, la mise en place de toilettes sèches pour ceux qui le souhaitent, et même en ville, c'est possible. Moi, le premier, j'ai pas de toilette à eau à la maison, et en plus du fait de pouvoir faire un super compost pour mon jardin, c'est une économie d'eau faramineuse.
Mais vous habitez où, Mathieu, déjà? Pardon. Ah, vous êtes dans les Deux-Sèvres, c'est ça?
Tout à fait.
Voilà, vous avez un jardin.
Oui, j'ai un jardin, ce privilège.
Ok. Merci beaucoup, merci vraiment aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, évidemment, dans vos réflexions et questions qui vont nous permettre d'entamer ensemble ce débat pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Guillaume Choisy est là. Bonsoir, monsieur Choisy. Vous êtes directeur de l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Joël Limousin est là également. Vous êtes vice-président, bonsoir, monsieur Limousin, vice-président de la FNSEA, chargé de la gestion des risques climatiques et sanitaires. Et puis, Florence Denier-Pasquier. Bonsoir, madame Denier-Pasquier. Vous êtes juriste pour France Nature Environnement. J'ai envie de me tourner vers vous, Guillaume Choisy, directeur de l'agence de l'eau à Dour-Garonne, parce que les idées, en fait, vous faites aussi partie de ceux qui essayaient de les malaxer et voir ce qui est possible. D'abord, est-ce qu'on peut répondre à la question de Mathieu, bêtement, j'allais dire, sur l'eau de pluie? Est-ce qu'il y aurait moyen d'un autre usage, d'un meilleur usage de l'eau de pluie?
Oui, il y a probablement des solutions sur l'utilisation des eaux de pluie pour différents usages. Après, pour le mettre dans des circuits domestiques chez les particuliers, ça paraît peut-être parfois plus compliqué de le généraliser. C'est des choses qui nécessitent un double circuit, donc c'est des coûts d'investissement importants pour l'habitation, pour les habitats, mais aussi pour la gestion du circuit dans les zones urbaines notamment. Voilà, on a un double circuit sur la récupération des eaux de pluie, de là la réutiliser. Il y a déjà des expérimentations qui se font pour arroser des espaces publics et pas utiliser de l'eau traitée et potable pour faire vers ces choses-là. Il y a différentes expérimentations. Je pense qu'on est ouvert à tout. On a des projets parfois de recherche que l'on soutient dans ce sens-là. Et après, il y a aussi des questions sanitaires. Hein. C'est vrai que quand on entend pour prendre la douche ou pour prendre, il faut faire attention. Comment réguler un enfant, par exemple, quand il prend sa douche, pour pas qu'il prenne de l'eau qui n'est pas potabilisable.
Voilà. Oui. Mais alors, cela dit, en même temps que la question de Mathieu, c'est vers vous que je vais me tourner, Joël Limousin. Il y a une espèce de question subsidiaire qui parle tout simplement des eaux usées, en fait. Et il y a un débat qui existe autour des eaux usées, notamment pour l'agriculture. Où est-ce qu'on en est, là, Joël Limousin ?
Alors, effectivement, déjà, pour l'eau pluviale, il y a déjà l'utilisation de cette eau brute qui peut être utilisée pour l'irrigation, c'est-à-dire l'eau en excès qui tombe l'hiver, qui peut être stockée et être à disposition en période sèche. Et il y a également ce deuxième débat sur les eaux usées, où nous estimons qu'avec les stations d'épuration, il y a aujourd'hui des possibilités avec des traitements à minima et des contrôles et des analyses qui permettraient, quand on voit cette quantité d'eau utilisée par la population dans les stations d'épuration, plutôt que de passer des traitements infinitésimaux de façon très importante pour arriver à remettre dans la nature, on pourrait réutiliser cette eau moins traitée qui pourrait aller sur des cultures parce que l'eau, la terre agricole a la capacité de faire ce filtre. Il y a aujourd'hui des expérimentations qui sont faites et nous sommes prêts. Et moi, je suis en côte atlantique notamment, où il y a des expérimentations qui sont démarrées aujourd'hui. On sent qu'il y a un peu de résistance là-dessus, mais nous sommes prêts à niveau
du secteur
agricole. La résistance
vient d'où, Joël Limousin ? Est-ce que ça fait peur, en gros ? Est-ce que c'est ça l'idée aussi ? Attendez, des eaux usées sur des produits d'alimentation ? Est-ce que c'est ça l'idée ? Qu'est-ce qui fait peur là-dedans ?
Je pense qu'il y a cette crainte que ces eaux usées, qu'il pourrait y avoir des risques de contamination au niveau des plantes. Et donc, nous, on va avoir cette garantie en tant qu'agriculteurs que l'eau qui va être utilisée n'ait aucun risque, bien évidemment, pour la santé et dans la chaîne alimentaire, bien évidemment. Mais je pense que d'autres pays au monde sont bien plus en avance que nous sur cette question-là, ainsi que l'eau salée. Et vous allez dans certains pays, ils utilisent de l'eau salée. Alors, c'est des coûts importants, mais il n'y a pas d'autre choix pour pouvoir créer la souveraineté alimentaire. Et on pourra y revenir, si vous voulez.
Absolument, on y reviendra, j'espère. Florence Denier-Pasquier, il y a un autre volet dans la question de Mathieu. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir effectivement à l'eau de pluie ou l'eau salée. C'est celle de la tarification. Et l'idée d'ailleurs de Mathieu est plutôt intéressante. On aurait une espèce de socle commun chacun qui correspond à la consommation d'une famille. Et puis au-delà de ça, on met en place une tarification particulière, notamment quand on parle de piscine, etc. Est-ce que ça vous paraît judicieux ? Est-ce que ce serait une bonne méthode, une bonne manière de consommer plus raisonnable, on va dire ?
Oui, je pense que c'est vraiment une méthode à généraliser, hein, même si elle suppose un peu d'entrer dans des données plus personnelles. C'est ce qui a un peu fait obstacle, hein, c'est en fonction du nombre de personnes dans un foyer, il faut que ce soit juste comme tarification. C'est à généraliser non seulement pour les usagers domestiques, mais aussi pour les autres usagers de l'eau. L'eau est toujours une ressource en partage sur un territoire, donc utilisée aussi par des activités économiques, industrielles, par des activités agricoles. Et si l'eau devient rare de plus en plus, et du fait du bouleversement du cycle de l'eau, il faut que son prix reflète cette rareté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une incitation à économiser juste en fonction des besoins. Que ce soit pour nous, les ménages, les familles, mais aussi pour les autres activités. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de tarifications qui ne sont pas... Là, c'est ce qu'on appelle de la tarification progressive, mais beaucoup de tarifications qui sont plutôt dégressives. C'est plus vous consommez, moins vous payez. Et là, il y a tout un système de tarification à revoir, tout comme le système des redevances des agences de l'eau à revoir. Par contre, je voulais quand même souligner que sur un premier désaccord avec Monsieur Limousin, pour nous, protecteurs de l'environnement, l'eau qui tombe en hiver n'est pas en excès, n'est pas inutile. Elle participe au cycle de l'eau, à la recharge des nappes, et c'est bien ça qu'il faut veiller à ne pas bouleverser dans les différents aménagements prévus.
Alors j'étais sûre qu'on allait revenir évidemment à la question des stocks. Je voudrais d'abord que vous nous expliquiez, Guillaume Choisy, vous êtes un peu l'homme neutre au milieu de ça. Est-ce qu'on peut réellement stocker, j'allais dire ad vitam, indéfiniment dans un cycle, en fait, l'eau, comme souhaite le faire la plupart des agriculteurs. Est-ce que, au contraire, effectivement, comme le disent des gens comme Florence Denier-Pasquier, il faut éviter de stocker et laisser, j'allais dire laisser couler au sens propre du terme?
C'est vrai qu'il faut qu'on puisse arriver à laisser couler pour avoir des débits minimums qu'on connaît pour les rivières, pour maintenir la biodiversité, la qualité des eaux. C'est la priorité pour en assurer les différents usages, et notamment en premier lieu l'eau potable. Et après, il y a des périodes, et notamment avec le réchauffement climatique, où l'évolution des précipitations et des périodes sèches évolue considérablement ces dernières années. On s'aperçoit qu'on a des périodes extrêmement courtes. De plus, cette année, les périodes où on a pu recharger les nappes et recharger les cours d'eau, ça a été novembre et c'est arrivé très tard, hein, tout début novembre jusqu'à fin décembre, début janvier, et après on a eu des périodes plutôt sèches sur l'ensemble de l'Hexagone, donc des périodes assez courtes en capacité de recharger. Donc, c'est vrai que dans ces périodes-là, il faut utiliser toutes les solutions. En premier lieu, probablement la solution des économies d'eau pour faire face à cela, ça a été évoqué. La question de la reuse peut en être une. Je pense que ici, dans les assises de l'eau qui ont été menées par Emmanuel Wargon, ça fait partie des solutions qui ont été évoquées par la ministre dans ses conclusions. Il faut qu'on puisse les expérimenter. On en fait très très peu. Ça représente moins de 0,001% de l'eau utilisée aujourd'hui. Donc
pourquoi d'ailleurs on en fait si peu? Pourquoi il y a cette frilosité?
Parce qu'il y a probablement une réticence des populations, une réticence sanitaire. Ouais. On a aujourd'hui une harmonisation qui est en cours et qui est pratiquement finalisée de ce que j'en sais au niveau européen. Et je pense que ça pourra permettre de mener des expérimentations, avoir des retours de ces expérimentations-là et de pouvoir peut-être le généraliser. Mais effectivement, on n'est pas dans les pays où ça se fait le plus. On a des pays européens où on est à plus de 10%, on est à 15%. Voilà. Donc c'est probablement une source. Il y a les solutions fondée sur la nature aussi. Hein. La nature sait faire le stockage et l'épuration de l'eau, notamment la préservation des zones humides en est une solution. Et puis, il y a probablement une solution, parfois, quand c'est nécessaire et quand c'est possible, de stockage de l'eau sur des endroits où il faut que ça puisse se justifier avec des déficits pour pouvoir substituer les prélèvements l'été, utiliser des eaux l'hiver, ça doit se faire dans un cadre. Il y a eu la mise en place de projets communs, de projets de territoire, ce qu'on appelle les projets de territoire, avec une concertation avec les acteurs locaux, avec les élus locaux. Et quand c'est porté, ces solutions-là sont nécessaires à mettre en œuvre. Voilà, c'est ce qu'on travaille, nous aussi, sur le bassin d'Ourgaronne, avec les deux présidents de région, l'agence de l'eau, le président de région, le président Malvy, le président de bassin, et la présidente Carole Delga et le président Larousset sur la région Nouvelle-Aquitaine, pour trouver ces solutions, qui sont des solutions de long terme. Voilà.
Joël Limousin, je sais que vous voulez intervenir. Je voudrais d'abord vous faire écouter l'un de vos confrères, au fond, qui est agriculteur en Loire-Atlantique. Bonsoir, Romain.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, merci d'abord pour toutes vos émissions. Vous m'accompagnez régulièrement sur la fin de mon travail, en général en fin de journée, donc on vous écoute régulièrement.
Super.
Moi, je veux apporter un témoignage. Donc, agriculteur, j'ai 30 ans, agriculteur en élevage laitier avec mes parents, mon frère. Nous sommes donc dans le Pays de Ray, donc c'est du côté de Pornic. Et chez nous, nous sommes déjà en déficit hydrique là depuis déjà une bonne quinzaine de jours. Donc, nous, la gestion de l'eau, on la connaît. Enfin, on fait aussi très attention. Je voulais aussi un témoignage, c'est qu'on fait du maïs chez nous et on a souvent la réflexion « Ah, vous faites du maïs, donc vous irriguez ». C'est faux. Il y a une grande partie du maïs, surtout le maïs fourrage pour chez nous, vu qu'on est en lait, qui n'est pas irrigué sur l'exploitation. Et puis après, nous, on a la réflexion peut-être à long terme de passer en bio. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, en fait, c'est l'eau, parce qu'on n'a pas de réserve d'eau, on n'a pas d'irrigation, justement. Et si on aurait cette eau, ça permettrait de sécuriser notre système à la fois d'herbage, parce qu'on a pas mal de pâturage. Et aujourd'hui, l'herbe ne pousse plus depuis 10 jours, donc pour le pâturage et mes animaux. Et le captage du carbone qui est lié, justement, à tout ce climat, parce qu'on a fait aussi ce diagnostic carbone sur notre exploitation. Donc c'est un petit peu compliqué cette question-là, parce qu'on a vu pas mal d'eau tomber cet hiver. On a réussi à récolter pas mal d'herbes pendant le confinement, parce qu'en fait le confinement, on était nous en plein boulot. Et aujourd'hui, on n'a pas cette eau qui nous fait défaut. Et donc on aurait cette eau, on pourrait passer plus facilement en bio, parce qu'on sécuriserait à la fois nos fourrages, mais aussi toutes les cultures qu'on fait à côté. On fait un peu de blé, on fait d'autres cultures, du lin pour l'alimentation.
Mais du coup, l'eau vous manque, Romain. Est-ce que vous pourriez en avoir plus et mieux en étant, je ne sais pas, organisé différemment, y compris à l'échelle du bassin?
Nous, on est à 10 km de l'océan. On pourrait effectivement, je pense, créer facilement une retenue d'eau. La seule, les grosses contraintes qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, réglementairement, c'est très, très, très compliqué. Bon, pour des questions environnementales, on comprend. Faut pas non plus qu'on déséquilibre le milieu. Puis, de toute façon, nous, agriculteurs, l'environnement, le sol, tout ça, c'est notre outil de travail. Et moi, j'ai 30 ans. J'ai envie de finir mon métier, d'arriver tranquillement à la retraite et de le transmettre à ma descendance. Mmh. On a ça à cœur, de toute façon, dans notre cœur de métier. Donc, c'est normal de garder ça. Mais on a une grosse contrainte réglementaire. On nous avait parlé de simplification pour justement nous aider à mieux gérer tout ça. Et en fait, on se retrouve avec des paperasses monstres à devoir monter si on veut. Et je rajoute surtout, c'est pas parce qu'on irrigue qu'on ne paye pas. Aujourd'hui, un éleveur irrigateur, il a un compteur et il doit une redevance sur l'eau qu'il irrigue sur ses champs.
Merci beaucoup, Romain. Merci vraiment. Joël Limousin et puis Florence Denier-Pasquier aussi, qui voulait évidemment aussi intervenir. On a l'impression un peu du diable qui se mord la queue, Joël Limousin, au fond, avec le cas de notre ami Romain, qui veut bien faire du bio, mais qui a besoin d'eau, sauf qu'il n'a pas d'eau, et que les retenues sont compliquées. Ça devient un peu kafkaïen pour lui, on va dire.
Alors, effectivement, c'est un témoignage très concret. Il faut savoir que la France dispose de la seconde ressource renouvelable en Europe, en eau, après la Norvège, source FAO. Donc, j'ai entendu M. Choisy tout à l'heure, il y a de l'eau renouvelable. La vraie question, et Romain nous met bien en évidence, il y a eu un excès d'eau cet hiver, et moi j'habite à côté de la Loire-Atlantique, je vois bien comment les choses sont passées, ça a inondé des territoires, et sur le printemps, c'est un manque d'eau. Et je pense que la demande simple faite par les agriculteurs, et Romain est un vrai témoignage, dire mais toute cette eau en excès, plutôt qu'elle parte à la mer, qu'elle a inondé mes champs, j'aurais pu en stocker 20 000, 30 000 mètres cubes, tout en préservant, bien sûr, le milieu. Et ça, c'était une priorité. L'eau, c'est multi-usage. Il y a trois usages fondamentaux dans l'ordre de priorité. L'eau potable, l'enjeu biodiversité pour la préservation des milieux, et l'irrigation, ou l'eau économique qui sert pour l'agriculture et pour l'industrie. Voilà un petit peu notre approche que nous avons. Et pour répondre à Romain, notamment dans le cadre de la conversion bio, eh bien, de quoi il s'agit pour lui, y compris dans la diversification de son assolement, pour sécuriser, bien sûr, ses productions bio, eh bien, il a besoin d'irrigation. Sachez que dans les départements où il y a de l'eau à disposition, c'est là que nous avons le plus de conversions en agriculture biologique. Donc, voilà, ce sont les faits. C'est pas de la philosophie, ce sont des faits.
Florence Denier-Pasquier, quels sont pour France Nature Environnement les mots tabous que vous entendez ici et là? Est-ce que c'est le mot retenue? Est-ce que c'est le mot irrigation? En effet, l'exemple de Romain était extrêmement concret. S'il ne peut pas faire du bio parce qu'il manque d'eau, on a un peu l'impression, encore une fois, du diable qui se mord la queue.
Alors, l'irrigation n'est absolument pas un mot tabou pour France Nature Environnement. C'est vraiment un usage noble de l'eau. La question, c'est du partage de l'eau sur des territoires qui sont inégaux par rapport à la ressource. On ne peut pas raisonner là à l'échelle nationale.
Donc, vous voulez dire que si on fait une retenue, par exemple, effectivement, ça sert un certain nombre de gens, notamment Romain, mais ça ne sert pas au plus grand nombre?
C'est-à-dire qu'il faut gérer l'héritage. Depuis la sécheresse de 76, il y a eu une explosion du nombre de retenues. Une telle explosion qu'on ne sait pas aujourd'hui combien on en a en France. Et on le cherche. Et c'est plusieurs centaines de milliers. Et en fait, sur des bassins, donc ça c'est les territoires de l'eau, il peut y avoir une forte densité et avoir des effets cumulatifs qui fait qu'il y a vraiment des impacts lourds sur le débit des cours d'eau. C'est-à-dire que les retenues, si elles sont conçues, mal conçues et souvent sur des héritages, des aménagements, eh bien, il y a un effet fort sur le débit des cours d'eau. Et avec des vrais risques qu'on voit en Espagne, on le voit en Espagne, sur que quand il y a trop de retenues sur un bassin versant, il y a des concurrences entre elles et il y a des non-remplissages. Donc il y a une risque de créer des fausses sécurités. D'où la nécessité de bien les dimensionner, de bien les gérer, et donc d'aller sur des projets de territoire et d'avoir justement ces arbitrages pour pouvoir arbitrer non seulement des futurs, mais des actuels. Et sur ces aspects-là, l'irrigation, il y a aussi une question du partage de l'eau entre les agriculteurs. Tous les agriculteurs ne sont pas irrigants, loin de là. Il y a à peu près 15% des agriculteurs sont irrigants. Et si il y a un arbitrage entre les agriculteurs en disant prioriser l'irrigation sur la sécurité alimentaire, etc., dans le respect des équilibres naturels, il y a sans doute des solutions à trouver. Mais on ne peut pas gommer l'héritage d'un territoire. Et le risque de systématiser la question stockage, c'est le risque de se créer des fausses sécurités et de pas aller chercher sur des améliorations techniques, la diversification des cultures et une irrigation qui serait plus sur des niveaux de sécurité et pas à tout prix. Et donc ça, c'est vrai que c'est des questions assez précises, mais qui ne supportent pas une question systématique.
Joël Limousin, je vous laisse répondre parce que je sais que vous le souhaitez. On retournera... Tiens, j'ai une autre question pour Guillaume Choisy, juste après. Je vous écoute, monsieur Limousin.
Simplement de rappeler que la surface irriguée en France, c'est 6% de la surface agricole utile. C'est 1,6 million d'hectares. Quand en 2000, ça représentait en volume d'eau 4,5 milliards qui étaient prélevés dans le milieu. Aujourd'hui, on se situe à 3 milliards. La surface, le volume à l'hectare en France est de 1700 mètres cubes à l'hectare et par an. En Espagne, en Italie, on est à 4800 mètres cubes. La moyenne européenne est à 4000 mètres cubes. Donc la notion d'efficience de l'eau, ça fait des années. Nous devons continuer, bien évidemment, trouver les outils technologiques pour permettre, avec des sondes capacitives que nous avons en place, pour déclencher l'irrigation quand il y en a besoin, diversifier les cultures, etc. Je pense, madame, qu'il y a vraiment des efforts qui ont été faits. Et l'ambition aujourd'hui, je le rappelle, c'est bien d'abord l'eau potable, les milieux. Et nous avons, dans notre département de la Vendée, que je connais beaucoup mieux, l'année dernière, 51% des barrages étaient remplis au 30 septembre, département touristique, où on a eu de la sécheresse. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des stockages de façon importante, sans perturber le milieu. Je crois que toute la partie Marais-Poitevin, avec des réserves de substitution, nous permettent aujourd'hui de pouvoir maintenir des niveaux suffisamment importants dont on n'a jamais eu depuis des années, et ça dure même depuis les sécheresses, avec la batellerie qui aujourd'hui se porte bien en matière de tourisme. Donc vous voyez qu'on peut combiner les besoins des uns et des autres. Mais pour cela, il faut s'écouter, et je partage, Madame Florence, l'aspect des projets de territoire de gestion de l'eau, les PDGE. Nous y sommes très favorables, mais on doit être dans une co-construction.
Guillaume Choisy, c'est vous qui allez m'aider à répondre à cette question d'Héloïse, qui est à Paris, dans le 11e arrondissement, et qui nous demande, au fond, quelle est la proportion, quelle est la gourmandise en eau, quel est le partage entre l'agriculture, entre les centrales nucléaires, les centrales énergétiques, entre nous, les consommateurs. Qui est le plus gourmand, au fond? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on revient sur le sujet de l'agriculture. Qui est le plus gourmand?
Alors ça dépend des périodes de l'année, mais sur une année, sur un bassin comme celui d'Adour-Garonne par exemple, on est à peu près à un tiers. Un tiers pour l'agriculture, un tiers pour l'alimentation en eau potable et un tiers pour tout ce qui est lié à l'industrie. Donc c'est variable d'un bassin à un autre, mais globalement on a à peu près cette répartition-là. Mais c'est vrai que les prélèvements agricoles sont principalement à la période où les agriculteurs doivent faire de plus en plus face à la sécheresse des sols, donc principalement au printemps, et c'est pas forcément là où on a le plus de ressources. Et ces ressources-là sont variables d'un bassin à l'autre. Il y a des bassins qui sont réalimentés, il y a des bassins sur lesquels on peut faire du stockage, mais la situation est quand même assez hétérogène sur cette question-là.
Il y a une question de Louis également sur franceinter.fr. Quelle est la proportion d'eau perdue dans les différents réseaux d'alimentation d'eau potable? Il paraît que la somme est assez vertigineuse à cause de la vétusté, justement, des canalisations.
Alors, aujourd'hui, c'est un peu plus de 75% d'eau prélevée qui arrive au robinet. Il faut savoir que pour faire marcher le système, on sera jamais à 100% qui arrive. Et les assises de l'eau qui ont été conclues il y a un peu plus d'un an par Emmanuel Wargon ont donné l'objectif d'arriver à un taux de renouvellement de 1% du réseau. Et aujourd'hui, on a un taux de renouvellement qui est plutôt aux alentours de 0,57% du réseau chaque année. Donc cet effort-là doit permettre de viser plutôt 80-90% au fil du temps d'économie de fuite dans les réseaux. Et c'est un travail assez colossal parce que l'ensemble du réseau national a été fait en grande partie après-guerre, a été fait à peu près en même temps. Donc il arrive un peu en rupture en même temps, forcément. Donc il faut anticiper tout cela.
Tiens, voilà quelqu'un, Guillaume Choisy, qui est près de chez vous puisqu'il est en Haute-Garonne, et c'est Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Philippe.
Oui, bonsoir, merci. Merci pour vos émissions d'abord, hein, merci beaucoup. Juste, je faisais part de mon témoignage. En fait, je suis élagueur grimpeur, entre autres, et j'utilise un outil qui est un broyeur de végétaux. En fait, je fais du BRF, c'est du bois ramé à le fragmenter. En fait, je broie le bois que j'utilise, j'essaie de rentabiliser au maximum la filière du bois. Et en fait, ce broyage, je l'utilise. Moi, j'ai la chance d'avoir un petit potager, donc j'utilise mon potager. Et puis, j'ai pu regarder, observer, faire des expériences. En fait, je me rends compte, en fait, que j'arrose quasiment plus mon potager, quoi, puisque l'eau est retenue, elle ne s'évapore pas. C'est, en fait, on a un sol ici qui est très glaiseux. On dit qu'il pègue ici, on dit qu'il colle. En fait, c'est un sol qui boit pas, en fait. Et en mettant une grosse couche de broyage sur l'espace à travailler, en fait, je me retrouve avec des plantations qui poussent vachement bien et qui consomment très, très peu d'eau, quoi. Donc, en fait, ça réduit complètement considérablement la consommation d'eau.
Mais est-ce que c'est faisable à grande échelle, Jean-Philippe ?
Mais justement, je pense qu'en fait, avec l'agriculture moderne qu'on a eue, on a fait des remembrements, on a cassé un petit peu toute la base. Je regarde autour de moi, en fait, on n'a plus de haies sur tous les pourtours des grands champs. Et en fait, toutes ces haies-là pourraient servir à produire ce bois-là. Il faudrait juste s'équiper de broyeurs et pouvoir épandre ça, ne serait-ce que pour le maraîchage, pour la vigne ici autour de Toulouse. Moi, je vois les exploitants, en fait, ils coupent les rameaux, mais les servants, en fait, ils les mettent au milieu des allées au lieu de les mettre au pied et de les broyer, de les mettre au pied des vignes, par exemple. Ça peut aider. En fait, bon, c'est toujours des essais, j'en sais rien. Il faut essayer des choses, mais bon. C'est la loi en fait, du paysan. Il faut observer, regarder ce qui se passe autour de nous. Quoi.
Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vais vous poser la question à tous les deux. Je ne veux surtout pas vous piéger, Florence Denier-Pasquier. Est-ce qu'on peut imaginer le système de Jean-Philippe à plus grande échelle, ou est-ce qu'on est là dans des petites solutions à échelle d'exploitation, et après tout, pourquoi pas des solutions aussi à échelle d'exploitation?
Ah, c'est des petites solutions qui marchent, hein, et c'est ce qu'on appelle en termes un peu des solutions fondées sur la nature. Et à grande échelle, ça peut marcher. C'est-à-dire une meilleure gestion des sols peut vraiment permettre de mieux gérer l'eau. C'est valable pour l'agriculture, c'est valable pour aussi les villes. Hein. On sait qu'une des solutions pour adapter le cycle de l'eau, permettre au cycle de l'eau de mieux répondre aux lourds effets du changement climatique, hein, qui va faire baisser les débits de cours d'eau de 40%, voire 50% en période d'étiage, ça va être de mieux gérer les sols, et donc de préserver, de restaurer les zones d'infiltration, de faire comme Jean-Philippe, éviter que ça s'évapore trop vite, de choisir des cultures aussi qui résistent mieux à la sécheresse, et valable notamment pour les cultures type la vigne. Mm-hmm. Il faut peut-être mieux faire des évolutions de cépages qui résistent mieux. Donc en fait, c'est un panel de solutions. C'est pour ça que nous résistons et nous protestons quand vraiment il y a des barrages qui sont inadaptés au contexte local, hein, parce qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être mises en œuvre. Nous, on travaille avec beaucoup de paysans chercheurs, de chercheurs de solutions, et on souhaiterait que les pouvoirs publics, la politique agricole commune, les agences de l'eau aussi, l'agence de l'eau à Dour-Garonne a fait une étude sur les économies d'eau en matière d'agriculture qui dépasse les questions des matériels d'irrigation. C'est des économies d'eau en agriculture qui concernent tous les agriculteurs, parce qu'en effet, tous les agriculteurs vont être concernés par le changement climatique. Mais ça concerne aussi ces questions de comment on préserve et on restaure des zones d'infiltration pour ralentir le cycle de l'eau, pour permettre une meilleure recharge de nappe et répartir des productions en fonction de ce territoire qui permet de mieux gérer le cycle de l'eau face au changement climatique.
Joël Limousin, vous vouliez répondre, je vous en prie. Je vous ai entendu après la question de Jean-Philippe.
Oui, je voulais apporter un complément de réponse à Jean-Philippe, parce que bien sûr, sur des aspects de maraîchage, on est sur des petites surfaces, on peut utiliser notamment à partir de broyage de bois, etc. Mais sur des plus grandes surfaces, il y a des techniques culturales simplifiées qui existent aujourd'hui, des semis sous couvert qui permettent d'optimiser au mieux l'eau. Ça a aussi un double avantage, c'est le stockage du carbone. D'ailleurs, c'est ce que nous mettons en évidence dans notre rapport d'orientation de la FNSEA sur le changement climatique, parce qu'on est vraiment en situation de proposition où je ne suis pas d'accord avec Madame Denier-Pasquier sur les aspects de l'eau, de l'eau. Bien sûr, l'eau fait partie intégrante, mais il n'y a pas que cela. Les agriculteurs ont aussi imaginé d'autres dispositifs pour permettre de préserver l'eau dans les sols en travaillant moins le sol, travailler juste la ligne de semis. Il y a des techniques aujourd'hui qu'il faut entendre et qui permettent justement d'optimiser l'eau résiduelle dans les sols.
Donc changer les techniques, je vous entends, Monsieur Limousin.
Du côté des écologistes, la volonté quelquefois de laisser partir l'eau à la mer systématiquement. Ouais, et là, on a des vraies difficultés dans les rivières.
Changer les techniques, mais pas changer ce qu'on cultive. Je vous pose la question parce que j'ai eu la question de Sylvie sous les yeux sur franceinter.fr qui dit on cultive trop de maïs dans le sud-ouest par exemple, qui est très gourmand en eau. Pourquoi ne pas cultiver autre chose qui en aurait moins besoin ?
Bien, aujourd'hui, par l'irrigation, depuis les années 2000 notamment, et 2010 en particulier, l'accès à l'eau a permis la modification des assolements. On a une diversification avec notamment des développements de cultures à plus forte valeur ajoutée. Pendant des années, la production de semences partait dans les autres pays européens. Le fait d'avoir de l'irrigation, ça permet de revenir sur le sol français. Les légumes, les plantes aromatiques à plus forte valeur ajoutée, les agriculteurs s'adaptent sur ces productions-là. Et là, j'en reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la souveraineté alimentaire et de production. Avec les 3 mois que nous venons de vivre, eh bien, ça a amené tout le monde à se dire ayons cette souveraineté.
Le débat sur la mondialisation agricole, vous l'avez vous aussi.
Eh bien, je vous mets vraiment en débat. Si on a une capacité de diversifier sur toutes ces productions, regardez l'horticulture, comment ça a vécu, les grandes difficultés qu'il y a eu. Donc je pense que tout le monde a retrouvé cet intérêt de s'approprier sur le produit français. Eh bien, c'est pas quand tout sera parti ailleurs qu'il faudra venir se plaindre. Donc donnons-nous les capacités de façon raisonnable, bien évidemment, mais je reste toujours sur mon triptyque, eau potable, biodiversité, protection des milieux et eau économique.
Et j'ai entendu qu'on vous mettrait pas d'accord non plus, mais c'est pas le but non plus ce soir. On va partir en Bretagne d'abord et puis en Guadeloupe après, parce que je veux pas qu'on oublie les auditeurs. Frédéric est là, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de prendre ma question. En fait, c'est une petite question et une suggestion. Peut-être que ma question est un petit peu en dehors du sujet, puisque je ne parle pas précisément d'agriculture, mais j'aimerais savoir, quand on fait de la désalinisation d'eau de mer pour irriguer ou pour l'agriculture ou pour les usines dans les pays où on manque d'eau, que devient ce sel qui, j'imagine, est en très grande quantité? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le rejette dans la mer? Est-ce que cela cause un problème? Je n'ai jamais trouvé cette information nulle part. Ça, c'est ma question. Et je voudrais suggérer à tout le monde de regarder sur Internet. Je crois que je l'ai vu aussi sur le site du CNRS, mais là, je l'ai trouvé sur le site de Futura Planète. Je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est une photo du globe terrestre où on aurait enlevé absolument toute la quantité d'eau, que ce soit l'eau visible, les océans, les calottes glaciaires, etc. Toute cette eau est représentée par une petite sphère à côté, qui représente donc l'eau salée et douce, une minuscule plus petite sphère qui représente toute l'eau douce, et une microscopique petite sphère qui représente l'eau douce accessible, c'est-à-dire les lacs, les rivières et un petit peu les nappes phréatiques. Et voilà, ça montre à quel point en fait la quantité d'eau dont nous disposons est infime et fragile. Et voilà, donc je suggère...
Et donc soyons vigilants et sachons l'économiser. Pardon de vous presser, Frédéric, mais le temps tourne. Guillaume Chosy, est-ce qu'on peut répondre à la question de Frédéric? Qu'est-ce qui se passe quand on dessaline l'eau de mer pour utiliser l'eau pour d'autres choses? Est-ce qu'on sait ce qu'on fait du sel? Est-ce qu'on peut lui répondre rapidement?
Alors, je sais pas précisément ce qu'il est fait sur chaque projet. D'abord, les projets de désalinisation sont encore très très rares aujourd'hui en France, que ce soit ici ou en métropole ou dans les territoires d'outre-mer. C'est une solution qui peut être étudiée, mais qui a un coût relativement assez élevé par rapport au coût d'eau actuel. Donc on est probablement plus du double du coût d'eau actuel. Et ben le sel, je saurais répondre précisément pour l'instant.
Eh bien, c'est pas grave. Hélène est en Guadeloupe. Bonsoir, Hélène.
Ah oui, bonsoir.
Allez-y.
Eh bien, alors, merci de me donner la parole.
Mais je vous en prie.
Donc, moi, je voulais juste témoigner du fait qu'en Guadeloupe, qui s'appelle aussi en nom Caraïbe l'île aux belles eaux, régulièrement, les citoyens et les structures sont privés d'eau, certains pendant plusieurs semaines. Donc, depuis plusieurs années, les gens s'équipent régulièrement de citernes pour pouvoir pallier les manquements du réseau. Et le problème, c'est que cette eau, elle n'est pas potable. Donc, je voulais savoir quelle solution technique et pas trop onéreuse existait pour rendre cette eau de pluie pour la rendre potable.
Florence Denis-Pasquier, merci beaucoup pour votre question très concrète, Hélène. Est-ce qu'on peut répondre à Hélène? Est-ce que vous savez comment, quelle est la solution qu'elle peut avoir?
La solution qu'il faudrait en Guadeloupe, à Mayotte, etc., c'est avoir un vrai service public d'eau potable. Et c'est un peu un cercle vicieux qu'il faut absolument éviter hein, en Guadeloupe. C'est vraiment un problème de gestion de service. C'est-à-dire que le service n'est pas fiable. Là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de fuites. Du coup, les usagers sont insatisfaits, ne payent plus leur facture d'eau. Donc, il n'y a plus d'investissement pour renouveler. Et c'est vrai que le repli individuel sur une solution, qu'on comprend hein, tout à fait, est très coûteux en fait si on met ce cumul là. Donc c'est la restauration d'un vrai service public, et quand on voit la crise qu'on vient de traverser avec la nécessité d'avoir de l'eau au robinet, et dire qu'en France on a quand même des territoires qui n'ont pas d'eau au robinet, et avec des risques aussi sur d'autres territoires hein, dans la sécheresse 2019, il y avait 25 départements avec des ruptures et 15 avec des problèmes de qualité. On était chercher des eaux de moins bonne qualité pour desservir de l'eau en continu au robinet. Et donc ça, c'est vraiment cette gestion collective, c'est question d'avoir ce système de l'eau nous rend interdépendants les uns des autres. Il n'y a pas un usage qui doit dominer, il y a une priorité légale à l'eau potable, et c'est vrai que là c'est vraiment une reconquête du service public hein, en Guadeloupe, à Mayotte, pour avoir que tous les usagers aient une eau potable de qualité tous les jours à leur robinet. Parce qu'il y a des tours d'eau aujourd'hui en Guadeloupe, à Mayotte, etc.
Joël Limousin, pour répondre également rapidement, si vous le voulez bien, monsieur Limousin.
Juste dire, stockons l'eau quand elle tombe. Ce changement climatique nous amène aujourd'hui des périodes sèches très longues et des périodes de pluie importantes à un moment donné. Donc, si on ne comprend pas cela, on va avoir des pénuries. Et le témoignage de Hélène en Guadeloupe nous met ça en évidence. Mais sur l'Hexagone, sur la métropole, je pense qu'il y a toute la capacité de pouvoir stocker l'eau, y compris de sortir des règlements de date qui aujourd'hui nous interdit de prélever dans le milieu du 31 mars au 1er novembre. Donc je crois qu'il y a une adaptation, et là je m'adresse à Monsieur Choisy sur cette question.
Eh bien, il y a une. Ben, allez-y, Monsieur Choisy, en une seconde, si vous voulez répondre, je peux pas vous laisser dans le noir comme ça, mais très rapidement, s'il vous plaît, parce que l'heure vraiment a tourné.
Oui, en quelques mots, je pense que l'adaptation, ça passe par plusieurs critères. Le remettre de la matière organique dans le sol, c'est une solution qui est sans regret aujourd'hui, et tout ce qu'on appelle, ce que évoquait Florence Denis-Pasquier sur les soins fondés sur la nature sont essentiels. Sur certains territoires, et quand on le peut, le stockage de l'eau pour améliorer, pour sécuriser, c'était le témoignage, l'un des premiers témoignages de l'agriculteur sur des filières à haute valeur ajoutée comme la bio, mais aussi d'autres filières, c'est aussi une nécessité. Et sur l'assolement, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Les agriculteurs sur le bassin, ils économisent aujourd'hui les irrigants. S'ils avaient les mêmes pratiques qu'il y a 10 ans, ils utiliseraient 100 millions de mètres cubes supplémentaires. Ça veut dire qu'il y a plus de 15% d'économie d'eau. Donc il y a des efforts qui sont faits, il faut les poursuivre, et c'est à ce prix-là qu'on arrivera à faire face au changement climatique.
Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous, merci mille fois, portez-vous bien.